L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Ah mais attends, on est le premier jeudi du mois.
Ah oui, c'est l'actuel.
L'émission féministe pour il, elle et elle.
This time, we will do it by ourselves.
Les luttes sont toujours des luttes simultanées.
L'acte de procréation est un acte de liberté.
Non una, di meno, pas une de moins.
Que l'avorto sea legal.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'actuel. Bonjour Carole.
Salut Sophia, salut tous.
Et donc aujourd'hui, c'est les transidentités qui nous intéressent pour cette émission. D'ailleurs, on l'entend dans le générique, c'est l'émission pour il, elle et yel.
Et oui, on a choisi ce sujet parce que, comme plein d'autres minorités, les personnes trans sont très invisibilisées en milieu rural et du coup, on avait envie de leur donner une voix.
Tout à fait. Et donc, on a interviewé des associations, des collectifs locaux, comme la boîte à outils. C'est Alice qui nous a répondu et c'est un collectif qui a monté une permanence LGBTQIA+ et féministe, donc très inclusive à Montclar. On va l'entendre en fin d'émission. Et juste avant, on entend aussi Alerte, l'association aveyronnaise en lutte pour l'égalité et le respect de toutes et tous, qui organise sa marche des fiertés le 13 mai à Rodez.
Et aussi, en cette émission, des témoignages de Marie et Séraphine, deux personnes qui nous parleront de leur identité de genre.
On commence, comme toujours, avec une revue de presse.
Radio Larzac vous présente la revue de presse, des pages aux voix.
I worry in the sun. Et on commence en parlant du MLAC, tu dois le connaître cette sigle.
Oui, très bien.
Donc c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement de la contraception qui a donné suite ensuite au planning familial. Eh bien c'est son 50e anniversaire cette année. Donc Virginie Ballet et Marlène Thomas pour l'occasion signent un article sur Libération qui retrace l'histoire du mouvement. Elle rappelle qu'à l'origine il y a une date, c'est le 8 avril 1973 où les militantes du MLAC ont convoqué la presse à l'hôpital Saint-Antoine à Paris pour assister à un avortement par aspiration à l'aide de canules souples. C'était une nouvelle méthode à l'époque qui s'appelait méthode Carman. Et donc voilà, l'article rappelle à l'époque, évidemment l'avortement était illégal mais pratiqué par des praticiennes et praticiens de manière clandestine qui se sont au fur et à mesure formés à cette méthode qui à l'époque était donc innovative. Donc voilà, je vous invite à découvrir l'intégralité de l'article sur Libération. Le MLAC, comme on disait, a donné naissance au mouvement français pour le planning familial qui existe encore aujourd'hui évidemment et qui s'occupe toujours d'avortement puisque comme on l'a dit plusieurs fois à ces micros, c'est un droit qui n'est pas acquis. Et justement, toujours sur Libération, on peut lire une interview avec Sarah Durocher, présidente du planning familial national, qui répond aux affirmations du ministre de la Santé François Braun, qui a déclaré récemment qu'il n'y a jamais eu d'impossibilité d'accéder à la pilule abortive en France, alors qu'en réalité, l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament a récemment alerté, le 18 avril précisément, sur plusieurs pharmacies qui sont touchées par des pénuries de pilules à base de misoprostol, qui est la molécule nécessaire pour pratiquer une IVG médicamenteuse. Donc cette pénurie pour le moment concerne surtout la région parisienne et lilloise, comme le précise RTL, mais Sarah Durocher dénonce quand même une méconnaissance, et je la cite, de la situation réelle d'accès à l'avortement en France de la part du ministre, et précise que les médecins et les sages-femmes libérales se fournissent directement en pharmacie pour les pilules abortives, donc cette pénurie elle est bien réelle. Et elle propose comme solution la nationalisation de la production des médicaments, puisque les pilules à base de misoprostol sont commercialisées par un unique laboratoire en France qui s'appelle Nordic Pharma et qui dispose du brevet empêchant le développement d'un autre médicament pour du coup pratiquer une IVG médicamenteuse. Donc voilà, je vous invite encore une fois à découvrir l'interview complète en accès libre sur libération.fr. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais juste ajouter qu'un des droits qui n'est jamais respecté par rapport à l'IVG, c'est qu'en début tout début de grossesse, quand c'est encore un embryon, en fait, on devrait quand même avoir le choix entre l'IVG par aspiration et l'IVG médicamenteuse. Or, par souci de praticité et sur le terrain, en fait, on ne propose que l'IVG médicamenteuse. Or, en cette pénurie de médicaments, faire respecter le droit du choix pourrait faire qu'on fasse des IVG par aspiration aussi. Voilà.
Qui sont peut-être un peu plus envahissantes
Eh ben, pas tant. Si elles sont bien faites, en fait, ça peut ne pas du tout être douloureux.
Ok. Et en tout cas, merci pour la précision. Et pour le moment, la pénurie, elle touche pas trop l'Aveyron ou quand même tu l'as ressenti
En fait, je sais pas. En Aveyron, on n'a pas de chiffres, on n'a pas de retour.
Bon, voilà. En tout cas, c'est un sujet sur lequel il faut veiller, comme toujours. On passe au Luxembourg maintenant pour parler de contraception, parce que ce pays offre désormais des moyens de contraception gratuits pour toutes et tous. C'est une mesure qui avait été reportée plusieurs fois à cause du Covid, mais voilà, aujourd'hui la Caisse nationale de santé a commencé à rembourser les contraceptifs comme la pilule du lendemain, les patchs, les anneaux contraceptifs, les injections, les implants ou les vasectomies. Dans cette liste, il manque, vous l'aurez remarqué, les préservatifs, mais c'est parce que ils sont déjà disponibles gratuitement au Luxembourg dans les lieux publics et les hôpitaux. Et c'est cette fois-ci la newsletter Impact qui nous le rappelle. Et c'est toujours la newsletter Impact qui nous mène en Afghanistan où les autorités talibanes ont arrêté courant avril à Kaboul Matullah Weza, le fondateur de PenPat. C'est un projet visant à aider les enfants et surtout les jeunes filles en zone rurale à avoir accès à l'éducation. PenPat a été fondée en 2009 et après l'interdiction des filles et des femmes d'aller à l'école, elle est devenue un symbole de la lutte contre le régime extrémiste des talibans, le régime patriarcal aussi. On rappelle à ce propos qu'en Afghanistan, les filles sont interdites de cours depuis septembre 2021, tandis que les femmes ont été exclues de l'université en décembre dernier. Et pour terminer, on termine sur un sujet qui concerne les transidentités, qui est le sujet principal de notre émission aujourd'hui. C'est une nouvelle un peu plus réjouissante qui nous vient du Pas-de-Calais. La maire d'Estevel, Estelle Zabot, a été élue en tant qu'homme et a obtenu récemment le soutien de son conseil municipal pour terminer son mandat en tant que femme. À 63 ans, elle devient donc la première maire trans à officialiser cette transition en cours de mandat. Réunie donc ces dernières semaines, le conseil municipal a renouvelé sa confiance et l'élu évidemment s'est réjoui, même si ce vote du conseil n'était pas requis par la loi. C'est une nouvelle rapportée par 20minutes.fr et le conseil municipal a aussi encouragé la maire à poursuivre son mandat alors qu'elle avait subi de menaces et de lettres anonymes dans sa boîte lettres et qu'elle songeait donc à démissionner. Et c'est la fin de cette revue de presse. Donc, on peut commencer.
Merci, Sophia.
Merci à toi, Carole. Les transidentités, c'est notre sujet d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Donc, les personnes trans, comme tu l'as dit, elles sont souvent invisibilisées, d'autant plus en milieu rural, mais elles sont toujours accompagnées par le planning.
Oui, tout à fait. En fait, on fait un accueil inclusif total, donc tout le monde est le bienvenu au planning. Et les personnes trans en particulier, sachant qu'en milieu rural, il n'y a pas beaucoup d'espace d'accueil. Donc en fait, on propose des entretiens anonymes et gratuits, sachant que les salariés sur les trois sites Rodez, Mio et Sainte-Afrique ne sont pas concernés par les transidentités, mais se penchent et s'appuient sur des collectifs et des associations concernées pour se renseigner et utiliser des outils qui sont valorisés et utilisés par ces associations.
Et vous intervenez aussi en milieu scolaire pour aborder ce sujet avec un outil qui s'appelle la licorne du genre.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, on intervient dans le cadre de subventions régionales ou nationales pour l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires. Donc, ça peut aller du primaire au lycée. Et on aborde, donc entre autres, aussi les questions de transidentité, surtout... dans l'idée de, avec la licorne du genre, donc qui est un outil qui a été créé par la Trans Student Educational Resource. Et donc c'est un outil où on voit une petite licorne avec un arc-en-ciel dans un nuage qui pense et deux cœurs au niveau du cœur et un dessin de génétique au niveau des organes génitaux. Et en fait, cette licorne, elle permet de bien comprendre la différence entre l'identité de genre, l'expression de genre le sexe assigné à la naissance et les attirances physiques ou émotionnelles. Donc les attirances, elles se trouvent au niveau du cœur, donc au niveau des émotions, un peu moins théorisables. Et l'identité de genre se passe dans la tête, c'est comment on se sent en fait, dans son genre, dans sa tête. Et l'expression de genre, c'est comment on exprime qui on est, donc les habits, la posture, le discours. Et le sexe assigné à la naissance, donc c'est les organes génitaux avec lesquels on naît, qui ne sont pas si binaires qu'on le pense, puisqu'il y a les personnes intersexes aussi, qui sont assez invisibilisées, qui sont même assez discriminées globalement.
Oui, et qui subissent souvent des opérations quand elles sont petites.
Tout à fait, à la naissance, oui, pour normer le sexe. Ouais.
Le planning, récemment, a aussi été critiqué en fait pour une affiche où on voyait un homme, un saint, c'était pour dire que c'est une association inclusive qui accompagne aussi donc les personnes qui auraient fait un parcours de transition et qui sont quand même tombées enceintes.
Oui, voilà, tout à fait. En fait, tout le monde a le droit à l'enfantement. Donc, un homme peut être enceint. Voilà, c'était ça, le message de l'affiche. Mais oui, il a fait couler beaucoup d'encre.
Oui, pour dire à quel point c'est aussi une question où il y a beaucoup de méconnaissance.
Oui, complètement. Il y a beaucoup de méconnaissance qui emmène à de la transphobie, il y a beaucoup de violence. Il y a encore des personnes trans qui se suicident parce qu'elles sont trop violentées dans cette société, ou alors il y a encore des lynchages, des violences physiques faites aux personnes trans en France aujourd'hui. Ouais.
Tout à fait. Et à ce propos, on a collecté des témoignages. Donc toi, Carole, tu as interviewé Séraphine, qui est d'ailleurs une personne accompagnée par le planning ou qui fréquente le planning.
Oui, elle est passée nous voir quand elle avait eu besoin, oui, tout à fait.
Et donc voilà, elle t'a parlé de son identité de genre.
Oui, entre autres, le planning familial, nous, on est une association féministe intersectionnelle. Et donc Séraphine, elle a particularité de se trouver dans différentes intersections de domination. Elle est à la fois handicapée et elle est femme et trans, parce qu'elle se considère tant femme cis que xéno-genre, mais vous allez le découvrir dans l'interview.
Et dans l'écoute, donc tout de suite.
Alors, bonjour Séraphine, je t'interview aujourd'hui parce que tu m'as déjà parlé de ton identité de genre. Du coup, je voulais te demander comment tu te définis au niveau de ton genre.
Alors, c'est drôle. Moi, en fait, je suis encore en questionnement parce que ça fait depuis le mois de avril, mai. Et en gros, moi, je me définirais à la fois comme une femme, à la fois comme deux xénogenres. Xénogenres, c'est les identités. C'est des identités de genre qui sont métaphoriques, qui sont pour ceux qui se trouvent ni dans la femme, ni dans l'homme, dans l'autre, dans la féminine, dans le masculin, dans l'autre. Et c'est toute une variété de choses, ça peut être des concepts, des choses, des animaux, toutes sortes de... Ça peut être aussi la neurodiversité, liée aux sensations tactiles ou visuelles, ou plein de choses. Et moi, en fait, il y a deux choses qui me définissent principalement. Le premier, c'est Monster Gender. Ça, c'est lié au fait que je suis autiste et handicapée, et que non, depuis mon enfance, j'ai toujours été beaucoup plus en lien avec les créatures naturelles et monstres, genre un peu freak en général, que par les humains normaux, classiques. Et c'est quelque chose qui se référençait beaucoup des films que j'ai regardé quand j'étais petite. J'en regardais pas que ça, bien sûr, mais c'est la majorité. Et après, en adolescent, j'ai eu un coup de cœur pour Tim Burton, ce qui est un peu... mon personnage autiste, avec ma personnage autiste, c'est un intérêt spécifique, un intérêt très fort pour quelque chose, et moi du coup j'aimais que Tim Burton dans cette période-là, j'aimais que lui, j'étais à fond. Et c'est expliqué bien des choses là-dessus. Après j'ai dû s'intéresser au cinéma, on va dire, de genre, au cinéma aussi un peu underground, un peu d'arrêt d'essai, mais vraiment bizarroïde. Donc c'était que des films comme The Water, les Rocky Horror, tout ça. Et en fait, et quand j'ai découvert à l'âge adulte, il y a de ça un mois, que ça existait grâce à une amie, puis c'est là que ça me représente vraiment. Sauf qu'à la fois, il y a une part de moi que ça n'est pas trop légitime, parce que je me sens encore assez femme quand même. Mais je ne sais pas où ça a que traîné à mon identité. En fait, j'identifie tellement, il y a beaucoup plus aux monstres et aux yeux et aux créatures, c'est naturel et aux humains, c'est logique. Le second, identité, j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, c'est Maëlle, je sais pas qu'on peut dire. M-A-E-G, gender, donc, qui est une identité liée au ménade. Les ménades, c'est les. C'est les. Je vais pas dire adoratrices, c'est forcément le terme.
Enfin, c'est les groupies.
C'est pas les groupies, c'est les adoratrices, c'est lié à un dieu en fait. En gros, c'est adoratrice du dieu Dionysos, le grec donc, qui est beaucoup de la culture, on va dire, un peu cliché. C'est un peu, on va dire, dans les normes, enfin, dans tout, qui est beaucoup associé en surface à une sorte de pépère, viciard et bourré, ce qui n'est pas du tout le cas. En réalité, c'est un dieu qui est queer, qui représente la folie, la liberté sexuelle, la liberté féminine, etc. Le vin, évidemment, peut-être ce genre de choses, ou cette chose autour de ça. Et il se trouve que c'est des personnages qui sont souvent vus comme sauvages. Elles étaient libres. Et voilà, elles dansaient au hommage au dieu, tout ça. Et j'adore cette identité simplement parce que je suis. Je me définirais comme païenne. Alors je suis quelqu'un assez rationnel dans mes pensées, en temps normal, je crois beaucoup à la science, tout ça. Mais en fait, c'est comme si j'avais réalisé l'année dernière, au mois d'avril, que Dionysos me suivait depuis ma naissance. Et que à travers des signes, plus ou moins parfois. Parfois ostentatoire, dans le sens que c'était vraiment visible, et parfois de façon beaucoup plus subtile. Et en fait, du coup, j'ai commencé en avril 2022 à avoir un hôtel pour lui, à faire des vénérations, de tout ce qui est dévotion, tout ça. Et du coup, ça fait que je me sens beaucoup. En fait, les ménades, c'est un peu la présentation de ce que j'aimerais être dans un futur proche, c'est-à-dire quelqu'un qui s'assume et qui a plus honte d'être bizarre, qui justement qui est un peu sauvage, qui se fiche des conventions, qui a pas peur de ce que les gens lui disent opinions des autres. Et pour moi, cette espèce de croyance m'est vraiment arrivée à ça parce que j'ai réussi à faire des choses que j'aurais jamais fait avant, comme écrire des autismes, comme après de m'acheter un binder pour être une androgyne, je peux en nommer des tonnes, comme porter des ailes d'ange dans la rue, tout ça.
Des quoi ?
Des ailes d'ange. Et voilà, quoi, j'ai plus loin parce que je me sens vraiment porté par cette espèce d'énergie un peu on va dire je fais ce que je veux et je t'emmerde, et c'est assez positif, je trouve. Donc voilà, du coup, c'est les identités sont liées toutes les deux, plus ou moins, voilà.
Ok, et j'avais une question: est-ce que tu penses que ton identité de genre a un lien avec ton histoire avec la médecine?
Alors, le monster gender, c'est le cas, parce que quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup d'opérations. Mais j'ai pris mon pied, le handicap au pied et tout, pour marcher quand j'étais petite fille. Mais ça veut dire que je devais aller régulièrement à l'hôpital de façon... Enfin, je dis pas à fond, deux fois quand j'étais enfant. Trois fois, une opération quand j'étais bébé, une opération quand j'étais 9 ans et une autre quand j'avais 16 ans. C'est, voilà, c'est, à comparer à d'autres gens, c'est pas beaucoup, mais c'est très traumatisant. Ça veut dire que je me rappelle, elles sont assez rigolotes, elles sont un peu tristes. C'est qu'il n'y a pas de Tim Burton dans ma d'argent quand je devais avoir 16 ans. J'ai eu cette opération des pieds. Et quand on m'a enlevé, on m'a mis du fer dans les orteils pour qu'ils tiennent droit. Et quand on a enlevé le bandage, j'ai vu des crochets de fer qui sortaient. Évidemment, j'ai pleuré. J'ai pensé à Edouard, évidemment. Et je me rappelle de... J'ai pas été expérimenté à un monsieur qui m'a dit... J'ai l'impression d'avoir les pieds d'autres personnes, qu'on les a recousus, que c'est plus vraiment mon corps, que mon corps est juste un truc à disséquer. Il m'a dit, ah oui, mais t'as un peu mon Frankenstein alors. C'est comme ça que je m'identifie en fait. Et voilà, et aussi, à un moment donné, j'ai rencontré un psychiatre qui était vraiment un type horrible, à beaucoup d'aspects. Un psycho, un psychiatre, je sais plus tellement, je devais avoir 17 ans, qui m'a dit si tu aimes autant ce genre de choses, c'est que tu penses que t'es un monstre et tout. La pauvre, c'est beaucoup traumatisé, j'en ai pleuré et tout. Et maintenant, c'est une manière de dire oui, j'en suis bien et je vous emmerde. D'ailleurs, en parallèle, il y a aussi une culture, contre-culture plutôt, dans les milieux marginaux, que ce soit queer, féministe, handicap, neuroatypie, et aussi antiraciste, personne racisée, qui s'appelle le Void Punk. En gros, c'est un mouvement dans lequel des gens qui ont été déshumanisés affirment leur déshumanisation. Ils assument, quoi, ils la reprennent. Et ça fait beaucoup de mimes, beaucoup de blagues, du genre ma transition idéale, ça serait d'être d'être une sorte d'alien avec plein de tentacules et tout. C'est. Ouais, ça m'éclate, ce genre de choses. Du coup, voilà, identifier à ça parce que c'est assez jouissif. Tout simplement.
Une dernière question, est-ce que tu veux qu'on fasse un appel à Mio s'il y a des personnes xénomonstres qui se reconnaissent?
Alors, du xénogenre plutôt, xénogenre, xénomonstre, c'est un peu plus compliqué de trouver des gens, mais xénogenre sûrement, parce que je pense qu'on existe et qu'il faut vraiment qu'il y ait plus de gens qui se. Je sais pas moi qui se montrent parce que. C'est bon, c'est une chanson que j'aime bien qui s'appelle Monstre-toi de Jade Vio. qui se montre et qui montre qu'on est là, qu'on existe et que. On est des gens comme les autres, quoi. Donc ça serait vachement cool. Et idéalement, des personnes aussi de mon âge. Parce que souvent, comme je l'ai dit, on croit que c'est un truc de jeune en mal d'identité. Alors qu'il y a aussi des gens de 30 ans, 40 ans, j'imagine, voire plus, qui s'identifient comme ça. Du coup, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, voilà.
Ok, trop bien. Merci beaucoup pour tes réponses.
De rien.
Au revoir.
Au revoir.
Des crocodiles, des loups-garous. Il a du mal à s'endormir, tellement c'est par le fond frémi. Bilou, bilou, petit bout de chou, je peux t'assurer sur ce coup. Les monstres aussi ont peur de nous, il suffit de crier à bon coup. Monstre-moi, monstre-toi. Toi qui dis si tu as envie d'être son ami, dors avec lui, aime sa compagnie. Si contre ta gorge tu sens une morsure, un coup de dent, le monstre en vrai là-dedans, à l'intérieur est bien plus inquiétant. Monstre, monstre-moi, monstre-toi. Pour t'expliquer, Vega, tu sais, a peur de toi. Tu devrais lui dire que toi aussi. Et peut-être que vous savez quoi, vous deviendrez de bons amis. Les freaks nous voient comme on les voit. Il suffit de crier une bonne fois. Monstre, monstre-moi, monstre-toi.
êtes toujours dans l'actuel. C'était l'interview de Séraphine, qu'on remercie beaucoup d'avoir accepté de nous raconter son identité de genre. Et la musique qu'on vient d'écouter, c'était Sous ses conseils, c'est Monstre-toi de Jade Viau, un morceau de 1995.
Qu'elle a choisi du coup Séraphine.
Tout à fait.
Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est toujours les transidentités. Et en Aveyron, comme on l'a dit un peu au début, il existe des associations qui accompagnent et soutiennent les personnes qui souhaiteraient entamer un parcours de transition ou tout simplement qui sont ouvertes en fait pour parler et s'informer sur ce sujet. Il y a bien évidemment le planning.
Oui. Et il y a aussi du coup l'association Alerte qui se situe plutôt sur Rodez en Nord-Aveyron, mais qu'on peut téléphoner pour avoir un soutien quand même quand on est à Millau. Et donc il a été interviewé par Claire a été interviewée par Sophia. On l'écoute tout de suite.
Oui, bien sûr. Alors du coup l'association Alerte existe tout de même depuis 11 ans. Donc ça ne fait pas 11 ans que je suis dans l'association, mais on a des bénévoles qui sont là depuis plusieurs années. Et des nouveaux bénévoles qui nous rejoignent régulièrement. J'en profite d'ailleurs pour dire que c'est tout à fait possible de nous rejoindre et qu'on a beaucoup de thématiques différentes. Il est possible de s'investir, de rencontrer des personnes motivées et ça reste du bénévolat et du plaisir. On a on a changé de bureau à la rentrée là de janvier 2023 et on a décidé de fonctionner en planète, donc on est tous un peu des extraterrestres qui œuvront sur nos planètes, donc peut-être c'est plus simple d'en parler comme ça. J'espère ne pas en oublier. Alors on a une planète prévention, donc on touche beaucoup à ces questions de prévention. Une autre, je pourrais en parler tout à l'heure puisqu'on parlera de la lutte contre la discrimination envers les personnes trans. Et donc, dans le cadre de la planète prévention, on en parle. Mm-hmm. Et puis, on a aussi tout un travail autour du soutien et de l'écoute. Et on a aussi tout un travail qui concerne plutôt la culture également, pour célébrer nos luttes. On a évidemment des personnes qui s'engagent dans cette Pride, qui est quand même un gros morceau à organiser chaque année. Et puis, des personnes qui s'occupent de planètes qui vont plutôt être autour de la convivialité, parce qu'on est quand même sur un territoire rural où on est assez loin les unes des autres. Et c'est toujours sympathique d'avoir des rendez-vous, des temps forts pour se retrouver.
Oui, donc c'est effectivement assez varié comme univers, pour rester dans la même métaphore. Et justement, tu en as parlé, mais dans le communiqué de presse que vous avez sorti pour la Marche des Fiertés cette année, vous mettez l'accent vraiment sur la visibilisation des diversités de genre et aussi sur la transphobie. Vous citez par exemple l'ado qui s'est défenestré l'année dernière, un ado trans, dans son établissement scolaire et d'autres épisodes d'homophobie et de transphobie cette année. Sur le terrain, je suppose, vous accompagnez des personnes victimes de transphobie aussi. Comment vous les accompagnez ?
Alors, pour répondre à cette question, je voudrais simplement préciser que je ne suis pas concernée directement, mais qu'on a des personnes qui sont concernées par les transidentités à titre individuel dans l'association. Et qu'on a demandé à ces personnes si elles étaient disponibles pour cette émission, et malheureusement non. Voilà, je voulais remettre ce contexte, voilà pour que ma prise de parole soit mieux contextualisée. Alors oui, on a dans le cadre du soutien et de l'écoute, qui est une de nos missions, on reçoit des personnes dans le cadre de rendez-vous individuels notamment. Nous avons eu l'habitude de faire des permanences, mais c'est vrai que de plus en plus. On préfère rencontrer les personnes individuellement parce qu'il n'est jamais évident de s'ouvrir, même sur un temps de permanence, en présence d'autres personnes. Donc il est possible d'avoir des rendez-vous individuels, également avec des personnes concernées, qui peuvent bien sûr, à leur échelle et au regard de leur histoire personnelle, accompagner la personne dans un parcours ou simplement une discussion autour d'un questionnement qui est en train d'émerger. Voilà. Ensuite, on a, pour parler de cas un petit peu plus graves, mais auxquels on n'a pas encore été confrontés, il est à savoir, pour les personnes qui nous écoutent, que nous sommes en relation avec la maison de protection des familles qui a ouvert à Rodez. Et dans ce cadre, on a le contact direct de personnes de la gendarmerie qui sont aptes à recevoir dans un cadre individuel, dans un espace séparé de la gendarmerie, des personnes pour recueillir des témoignages, mais également porter plainte. Et nous, nous sommes tout à fait enclines et enclins à accompagner ces personnes.
Et donc, vous êtes une association de bénévoles. Comment vous faites pour vous former à ces questions de prévention, de transphobie, d'accompagnement ?
Alors, pour se former, donc, d'abord, la formation de tout à chacun, on essaie d'avoir une vigilance au sein de l'association, de beaucoup lire, écouter, entendre les personnes concernées. On a pu également bénéficier pendant un week-end d'une formation plus ciblée sur les IMS, immersion en milieu scolaire, et notre positionnement plutôt que sur les transidentités. Et on a suivi une formation d'un week-end en novembre dernier avec une sexologue à Rodez. Donc il s'agissait pas de parler de sexualité, mais justement de profiter de son expérience auprès des publics. Ensuite, je sais qu'en ce moment, nous parlons de plus en plus de nous rapprocher de personnes du planning qui pourraient aussi nous apporter leur savoir. En tout cas, sur la question de formation, on essaye de croiser avec les associations. On est en contact avec beaucoup de collectifs et d'associations pour qui la question est importante également.
Vous écrivez aussi dans vos supports de communication que la loi de 2016 donc, a fait un premier pas pour démédicaliser la procédure de transition de genre parce qu'elle supprime l'obligation de subir une opération génitale pour y avoir accès. Mais ce n'est pas suffisant, je vous cite, parce que le parcours est long et fastidieux et l'avancée des droits n'est que partielle. Comment vous plaidez pour cette cause, par exemple, auprès des autorités locales, en Aveyron, à Rodez?
Je ne sais pas dans l'historique de l'association, puisque ça fait seulement un an et demi que j'y suis, mais je pense que ça a déjà été fait et qu'on ne serait pas du tout opposé à le refaire, puisque dans d'autres associations où j'ai milité, on l'a fait. Il est tout à fait possible, quand on constitue un dossier, on a besoin de témoignages de l'entourage pour certifier que on est reconnu tous les jours sous le genre qu'on désire se voir assigner au niveau social. Donc ça, par exemple, c'est tout à fait possible de le faire. Et en tout cas, dans d'autres associations où j'ai milité, il nous est aussi également arrivé de se positionner devant des mairies, d'écrire des courriers, etc. Après, je pense que c'est vraiment une question de cas par cas, parce que ça nous positionne aussi juridiquement, et du coup de bien connaître la personne et son parcours aussi, parce qu'on a notre parole engage notre responsabilité. À l'heure d'aujourd'hui, non, nous n'avons toujours pas fait de sitting devant la préfecture de l'Aveyron. En tout cas, je n'ai peut-être pas qu'il y avait des problèmes, mais en tout cas, s'il y en a, il ne faut absolument pas hésiter à nous en parler. On peut être vraiment un appui et accompagner les personnes dans leur démarche. Et également pour se faire entendre. C'est toujours plus facile d'être accompagné d'une association que d'être une personne seule face au refus d'agents administratifs.
Oui, justement, ça m'amène à une autre question que tu as évoquée. Tu as dit, par exemple, que tu n'es pas concernée par les transidentités, mais que tu parles au nom un peu de l'association. Et justement, votre association, elle est ouverte aussi, bien sûr, aux personnes cisgenres et hétérosexuelles. En fait, à toutes les personnes qui sont soucieuses de la lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+. Donc, à ton avis, d'après ton expérience, comment on peut être allié des personnes trans?
Alors, merci d'avoir reprécisé que je ne suis pas directement concernée, mais je pense déjà être à l'écoute, le respect. Il faut que je sois dans des choses beaucoup plus concrètes. Je dirais que la façon dont se présente la personne est un indice suffisant pour la genrer correctement. Il y a des personnes qui posent parfois des questions maladroites ou ils ont besoin d'informations sur le physique d'une personne, notamment sur des questions intimes physiques d'une personne pour la genrer correctement. Ce n'est pas utile. Si vous voyez une personne qui se genre au féminin, poursuivez ainsi, au masculin ainsi. Après, il y a aussi plusieurs formes de transidentité. Il y a des personnes qui sont dans une non-binarité de genre, une fluidité de genre. Et dans ce cas, j'ai envie de dire, posez la question. Poser la question sur de quelle façon tu préfères que je m'adresse à toi, mais toute question sur le physique, etc., j'ai l'impression que c'est pas une bonne manière de rencontrer quelqu'un. En tout cas, moi, je n'ai pas l'habitude de poser de questions sur la génitalité des personnes quand je viens de les rencontrer. Donc, ce serait vraiment un point assez important. Et puis aussi, être à l'écoute. Je pense que si on voit que la personne n'a pas envie d'en parler, c'est pas le moment. Je veux dire, on a tous des parcours différents et on n'est pas à disposition pour raconter son histoire à n'importe quel instant, dans n'importe quel contexte. Donc je pense que l'écoute et le respect d'abord. Et puis ensuite, sur des termes plus politiques, je pense que il faut essayer de mettre ses forces au bon endroit. Je désire pas du tout être politique ou parler de certains partis, mais en tout cas, je pense essayer de se tourner vers des idées, des initiatives qui sont vers la tolérance et plutôt soutenir celles-ci. Voilà.
Mmh. Et donc, je suppose ces questions de sensibilisation, de respect de l'autre, c'est quelque chose que vous abordez à un milieu scolaire. Comment ils réagissent, ils et elles, les élèves ?
Il y a peu, courant mars, nous avons participé à la journée de lutte contre les discriminations organisée à Rodez par l'Éducation nationale. Nous étions une association parmi d'autres sur des thématiques différentes. Du coup, nous avons eu trois classes, de primaire. Et finalement, je suis plutôt agréablement surprise. Donc, moi, j'étais simplement en regard extérieur sur ces rencontres. Et en fait, les enfants sont très au courant. On a vraiment surdécliné le sigle jusqu'à LGBT très bien. Ils connaissent vraiment les termes. En tout cas, ils ont tendance à échanger ensemble pour se les expliquer. Et puis, même quand ils sont jeunes, quand on parle des transidentités, ils posent la question assez naturellement. Après, bien sûr, il y a certains moments où on sent qu'il y a des tabous. Je pense pas que ce soit issu directement des enfants. Mais en tout cas, quand ils sentent qu'on est en collectif en train de parler de ce sujet, qu'il est possible d'en parler, en fait, les barrières tombent très vite. Et d'ailleurs, les enseignants prennent contact assez régulièrement avec nous pour avoir des rencontres sur les sujets de l'homophobie et des transidentités. Parce que, aussi, c'est plus facile d'avoir un intervenant extérieur, je pense, pour parler de ces sujets. Et en tout cas, nous, on le fait avec grand plaisir, avec les contenus que nous proposons aux établissements.
Et donc, rendez-vous le 13 mai à Rodez pour la Marche des Fiertés ?
Oui, du coup, sur la Marche des Fiertés, il y a aussi la lutte contre la transphobie. C'est aussi visibiliser, en fait, les transidentités. Plus une chose est connue, moins elle fait peur. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce slogan du genre à être fier. Et puis, avant le 13 mai, qui va être une superbe journée, je pense, militante et conviviale, sachez qu'il y aura aussi le 9 mai à 17h30 à la mairie de Rodez l'inauguration de l'exposition Queer de Quentin Houdas qui aborde justement les transidentités. Donc vous êtes bienvenus, c'est gratuit. Si l'agenda vous le permet encore, je vous invite à aller aussi à la Pride, à la Marche des Fiertés organisée par le collectif Les Bonnes Débroussailleuses le 10 juin à Villefranche.
Oui, et c'est un collectif avec qui vous travaillez aussi.
Oui, on échange beaucoup et on est très heureux et heureuses, en tout cas que le 13 mai fasse suite au 10 juin et que nous ayons deux Marches des Fiertés en Aveyron.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci Sophia.
Donc c'était l'interview avec Claire, qui est bénévole à l'association Alerte. Et comme elle vient de le dire, Alerte sera présente à la Marche des Fiertés ce 13 mai. La marche a une devise qui est du genre à être fier. Donc voilà, on vous donne rendez-vous à partir de 11h au Jardin du Foirail à Rodez, avec un village associatif où sera présent aussi le planning.
Tout à fait.
À côté d'autres associations comme le Relais VIH ou les Débroussailleuses. Et la marche commence à 14h. Et ensuite, à partir de 17h30, il y a un after gratuit. Et maintenant, on écoute un autre témoignage. C'est un ami à moi qui s'appelle Mary. C'est une personne non-binaire qui est née assignée fille et qui se genre aujourd'hui au masculin. Donc, il parle beaucoup du côté politique de son parcours et on l'écoute tout de suite. Et il est italien, donc il a été doublé par Kevin. Donc, aujourd'hui, comment tu te définis ?
Aujourd'hui, je m'identifie comme non-binaire, même si c'est encore quelque chose en phase d'élaboration de découverte.
Est-ce que tu en as parlé à tes proches et comment ils et elles ont réagi ?
Il mio partner sa tutti i dettagli, anche quelli più insignificanti e personali.
Mon partenaire connaît tout, même les détails les plus insignifiants et personnels. Avec lui, c'était assez facile d'en parler. C'est quelqu'un d'assez tranquille et ouvert, qui n'a pas d'arrière-pensée, qui pourrait le perturber à ce propos. Donc avec lui, tout s'est bien passé, de manière très tranquille. Ensuite, j'en ai parlé avec la plupart de mes amis et aussi ils ont été assez tranquilles sur le sujet. Je les ai bien choisis. Ensuite, j'en ai parlé avec ma mère, la seule personne de ma famille. Et avec elle, la question a été un peu plus compliquée. Elle n'a rien compris. Elle en est encore à la différence entre orientation sexuelle et identité de genre. Elle n'arrive pas à saisir l'univers trans et encore moins celui non-binaire, qui est encore plus incompréhensible à ses yeux. J'ai essayé de lui expliquer la différence et de lui montrer les choses de manière un peu générale. Ensuite, je lui ai dit comment je m'identifie. Et à la suite de tout ça, elle m'a demandé si j'aime les filles. Donc le message n'est pas passé. Avec elle, j'ai donc décidé d'attendre un peu, avant de lui dire par exemple que j'utilise des pronoms masculins, parce qu'elle n'est absolument pas prête pour l'entendre.
Spiegandole in generale per poi dirle guarda, mi identifico così. Lei mi ha chiesto in tutta risposta se mi piacessero le ragazze, quindi il messaggio non è penetrato. E attualmente con lei sto aspettando un po' di capire un po' meglio io cosa voglio fare prima di, per esempio, dirle che attualmente uso pronomi maschili, perché decisamente non è pronta per sentirselo dire.
A ton avis, c'est donc parce qu'elle n'est pas assez sensibilisée ou informée sur le sujet?
Io direi più che altro perché oltre una certa età si fa molta fatica ad assimilare nuovi concetti e per le generazioni sopra i 50 anni questi temi sono assolutamente sconosciuti, nessuno li ha.
Je dirais que c'est parce qu'au-dessus d'un certain âge, on a beaucoup de mal à assimiler de nouveaux concepts. Pour les générations qui ont plus de 50 ans, ces thèmes sont tout à fait inconnus. Personne ne les a jamais abordés avec eux quand ils étaient encore jeunes et souples pour les comprendre. Donc elle n'a pas les connaissances et la capacité de s'adapter au changement pour essayer de comprendre quelque chose d'effectivement un peu étonnant pour une personne qui n'en sait rien. Donc oui, je dirais que c'était un peu à cause du manque d'informations et de l'âge. Parce que ma mère est une personne plutôt ouverte, mais je sais qu'elle ne saisit pas ce sujet, car elle ne l'a pas vraiment abordé quand elle était jeune.
Non l'ha capito sicuramente perché non c'è entrata in contatto davvero quando era giovane.
Et depuis que tu lui en as parlé, votre rapport il a changé?
Non, je lui ai dit que je me définissais comme non-binaire et que ça allait rien changer pour le moment, et c'était la vérité. Et elle s'est contentée de cette réponse. C'est sûr qu'elle a un peu de mal avec les changements et encore plus sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas.
Sicuramente non vorrebbe affrontare cambiamenti di nessun tipo in genere. Ok. Sicuramente non su questo, una questione che non capisce.
Et maintenant, donc, que tu as entrepris ce parcours, est-ce que tu vis des difficultés du fait de vivre dans une société extrêmement binaire et cis-hétéronormée?
Sì e no, nel senso che, per esempio, tutto un aspetto che può essere quello di discriminazione, io non lo vivo.
Oui et non. Par exemple, surtout ce qui est discrimination, j'en vis pas. Parce que mon identité n'est pas visible à l'extérieur. Donc je n'ai pas l'intention d'utiliser des pronoms masculins avec des personnes en qui je n'ai pas assez confiance pour connaître la réaction. Donc il m'est rien arrivé de bizarre jusque-là. En même temps, oui. Par exemple, à chaque fois qu'on me demande si je suis un homme ou une femme, je suis obligé de répondre « femme » dans les formulaires, par exemple. Puis il y a tous ces gens qui te voient et qui te font des commentaires du style « ah, quelle jolie fille » ou « tu es très féminine ». Et je ne peux pas répondre à ce genre de commentaires. Il y a tout un tas de suppositions sur moi qui sont erronées, mais je ne peux pas les corriger. Pour mon caractère et mon vécu personnel, je ne vis pas trop mal ces moments, mais je sais qu'il y a des personnes qui en souffrent. C'est quand même un peu frustrant, parce que c'est comme si cette option n'existait pas. En effet, je dirais que ce qu'il y a de pire, c'est que j'ai dû attendre 25 ans pour commencer à m'interroger sur mon identité de genre. Parce qu'avant, cette possibilité n'existait simplement pas. Cette option ne m'a pas été transmise. Nous avons grandi avec une assertion, il y a l'homme et la femme, l'homme est ci et la femme est cela. C'est comme ça.
È stato più che altro il fatto che sono dovuto arrivare a 25 anni per iniziare a pensare sull'argomento. Perché prima non c'era la possibilità, non mi era stata data come opzione. Siamo stati cresciuti come c'è l'uomo, c'è la donna, l'uomo è così, la donna è colà. E così stanno le cose. Non ho mai avuto proprio i mezzi per capire che tutta una serie.
Je n'ai jamais eu les moyens intellectuels pour comprendre que toute une série de choses que je vivais, les autres filles ne les vivaient pas. Aussi, par exemple, la première fois que j'ai entendu parler de transgenre, j'en ai eu une idée assez faussée de ce que c'était. C'est, je crois, l'idée que tout le monde a eue au début, avant de creuser le sujet. C'est-à-dire, j'étais convaincu qu'une personne trans, c'est une personne qui a officiellement fait une transition et rien d'autre. Je n'avais pas toutes les notions, par exemple, sur ce que ça veut dire être trans, mais ne pas vouloir entamer un parcours de transition ou sur la non-binarité. Toutes les nuances de ces sujets m'étaient inconnues. J'ai donc découvert tout ça parce que bien avant de me savoir queer, j'étais une alliée, j'étais à toutes les prides. Donc après des années à fréquenter ces milieux, j'ai eu assez d'informations. Et un beau jour, je me suis posé la question.
Ho trovato abbastanza informazioni e un bel giorno mi sono posto la domanda. Direi per lo più il problema principale che io ho vissuto è proprio il essere qualcosa.
Je dirais que le problème principal que j'ai vécu a été d'être dans une catégorie qui n'est pas envisagée, pas prévue. Par conséquent, il est plus dur de se comprendre soi-même parce qu'on ne m'a pas fourni les instruments pour le faire. Ensuite, si on est élevé en tant que fille, je crois, il y a cette conception de devoir accepter forcément certaines choses. Donc c'est cette réponse et je me suis donné à toute une série de pensées, de problématiques, car je pensais qu'on ne pouvait rien y faire. Alors que maintenant, je me rends compte que ce n'était pas la bonne attitude. On ne devrait sûrement pas élever les adolescents avec cette idée-là.
Non era un atteggiamento giusto. Probabilmente non bisognerebbe crescere gli adolescenti con un'idea del genere.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
L'unica cosa che potrei dire è che chiaramente col clima politico attuale.
La seule chose que je pourrais dire, c'est que commencer ce parcours dans le climat politique actuel ajoute une dose d'angoisse par rapport à tout ce qui se passe au niveau politique. S'il n'y avait pas des hommes et des femmes politiques qui font les blagues sur l'usage des pronoms, ce serait sûrement plus aisé et ça ferait moins peur. Il y a des politiques vraiment dénigrantes. On dirait que la posture des hommes politiques, c'est de ridiculiser une chose à tel point que ça va même au-delà de la discrimination. Ils font semblant que tout ça n'existe pas et que c'est juste une blague.
Far finta che una cosa non esista e sia semplicemente una barzelletta.
On est de retour dans l'actuel, l'émission féministe sur Radio Larzac, et on vient d'entendre Mary, un témoignage donc d'une personne non-binaire, qu'on remercie aussi pour son temps. Et avant de conclure, on vous propose une dernière interview.
Oui, c'est celui d'Alice qui a participé à monter une permanence LGBTQIA+ féministe qui se situe à Montclar, à la boîte à Orti. Et ben, on l'écoute.
On l'écoute tout de suite. Donc bonjour Alice.
Oui, bonjour.
Donc, tu fais partie de la boîte à outils qui a monté une première permanence spécialement consacrée aux personnes LGBTQIA+ à Montclar. La première s'est tenue le dimanche 23 avril. Donc, pour commencer, peut-être tu pourrais nous raconter comment s'est mis en place ce projet.
Oui, alors je vais d'abord te corriger parce que c'est des permanences LGBTQIA+ et féministe, et du coup c'est ouvert à tout le monde, même aux personnes qui se sentent hétérosexuelles, quoi. Je préfère préciser.
Oui,
parce
tu fais bien.
C'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a été 2-3 à se rencontrer et à se dire que c'était une envie de créer un espace où on pouvait se rencontrer nous et aussi rencontrer d'autres gens, s'ouvrir, faire un peu de réseau, quoi. Et la boîte à Orti, bah, à Montclar, moi c'est juste à côté de chez moi, donc et c'est juste à côté d'autres copines. Du coup, ça nous paraissait idéal. L'endroit, il est très mignon et du coup. C'est parfait.
Et donc cette première permanence que vous avez tenue, comment ça s'est passé?
Eh ben ça s'est bien passé. On était pas beaucoup, mais on était très contentes et très contents de se voir. Ça nous a permis de, je sais pas, faire un petit peu de se mettre un peu au clair sur certains termes, discuter de comment on voit les choses. Pour cette permanence, même si voilà, c'est très libre et c'était chouette de discuter, quoi. Et ensuite, ben, on s'est dit qu'on avait envie de le refaire et que tous les troisièmes dimanches du mois, ça nous convenait, quoi. Et puis, on s'est demandé comment faire en sorte que le maximum de gens soient au courant. Et c'est pour ça que tu m'interviews.
Tout à fait. Et du coup, il y a déjà eu des personnes qui sont venues pour avoir, par exemple, un suivi, un accompagnement, demander des infos.
Je sais pas si c'est adapté de dire un suivi, un accompagnement, parce que on est plutôt un groupe de gens ouverts et pas des personnes formées. C'est pas vraiment un accueil de jour, c'est plus une permanence de sociabilité. Du coup, on va accueillir tout le monde, mais en même temps, on n'a pas forcément les réponses aux questions de tout le monde.
C'est plus un moment de rencontre?
Oui, voilà. Enfin, je dis ça parce que je trouve ça important que les gens ne pensent pas qu'on est formés comme des travailleuses sociales ou quelque chose comme ça. C'est pas du tout le cas, en fait. Mais évidemment, s'il y a des personnes LGBTQIA et féministes en détresse, eh ben, on pourra utiliser un réseau de solidarité, si, notamment si on arrive à en créer un grâce à ces permanences.
Oui, du coup, j'imagine que un peu le constat qui vous a donné envie de mettre en place cette permanence, ce moment, c'est aussi que bah, milieu rural, c'est peut-être plus difficile de justement trouver des moments de sociabilité encore plus si des fois on subit des discriminations.
Ah mais exactement. C'est moi, on est plusieurs là à vivre quand même dans des endroits très isolés de l'Aveyron. Et du coup, avoir peu de moments de sociabilité tout court, quoi. Et du coup, peu de moments de sociabilité où on se sent relié par ces thématiques-là, quoi.
Du coup, ouais, la boîte à orties, c'est un collectif qui s'est monté spécialement pour organiser tout ça, ou c'est quelque chose qui existait depuis un temps?
Alors, la boîte à orties, c'est une sorte, à mes yeux, une sorte d'espace de centre social autogéré. Donc, c'est un lieu où il y a différentes choses qui sont organisées. Moi, j'étais pas spécialement à l'origine de ce lieu, de ce projet, quoi. J'ai juste découvert que ça existait près de chez moi. Et c'était vraiment tout près, quoi. Du coup, j'y ai vécu un grand espoir de sociabilité, aussi d'un endroit où organiser des choses et rencontrer des nouvelles personnes. Et du coup, voilà, je suis allée à une assemblée générale. Il y avait une douzaine de personnes et j'ai commencé à proposer des choses. J'ai organisé certaines projections, c'était bien accueilli. Du coup, après, quand j'ai eu l'idée de ces permanences avec des camarades, ça a été aussi très favorablement accueilli. Et je pense que c'est aussi parce que comme on est dans des lieux isolés, aussi les gens qui sont en questionnement sur ces sujets-là, ils ont vraiment très peu d'endroits où mettre en processus les choses, se découvrir aussi, réfléchir à s'ouvrir à des nouvelles idées. Et du coup, c'est pour ça que ça me tient à cœur que ces permanences elles soient ouvertes aux gens en questionnement aussi, quoi.
Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour donner quelques informations en plus à propos de ce projet?
Oui, encore une fois, tout le monde est le bienvenu. Il y a des livres, des fanzines, c'est un peu une occasion de briser la solitude et d'échanger pas mal de choses, je sais pas moi, des livres, des podcasts, des idées de films. Et notamment, la prochaine fois, on aimerait bien passer un film en exclusivité qui s'appelle Die Hard, qui est un film suédois queer. Et voilà, ça peut être un moment chouette et rigolo de regarder ce film ensemble vers la fin de la permanence.
Très bien, on communiquera sur la prochaine permanence via Radio Larzac.
Formidable, merci beaucoup.
C'était toi et moi, ou la chapeau. C'était tellement travaillé, peu piqué, alter, on sait pas.
Tu comptes te marier, on sait pas, moi je sais pas. Tu comptes en euros.
Et c'est déjà la fin de cette émission. On se quitte sur les notes d'une musique que tu as choisie, Carole.
Oui, tout à fait. Alors, c'est Rad Cartier et Nyoko Bokbay qui rencontrent Lalice. C'est un morceau qui est né d'une communauté queer à Londres et que je trouve assez génial. Et donc, voilà. Mais je voulais quand même revenir sur quelque chose aussi avant de lancer la musique totalement. Il n'y a pas beaucoup, comme on a pu l'entendre, il y a très peu de lieux ressources pour les personnes trans. Donc, on a pu voir Alert, le planning familial et cette nouvelle permanence à Montclar, à la boîte à orties. Mais en tout cas, de manière informelle, il y a une personne près de Montclar qui propose un soutien, un habitat d'urgence pour les personnes qui se retrouveraient dans des grandes difficultés, qui seraient trans. Voilà, donc pour avoir le numéro, vous pouvez contacter le planning.
Merci Carole. Et puis on peut aussi citer quelques ressources pour s'informer un peu plus sur ce sujet. Il y a par exemple une BD appelée Moi Nathan qui est disponible à la bibliothèque du planning familial.
Tout à fait. Et une nouvelle découverte, c'est Paillettes toxiques et Sérum Fi. C'est un manuel pour discuter, se confronter aux relations dans les milieux queer, voilà, pour éviter de revivre des relations de violence, parce que c'est pas propre aux relations si c'est hétéronormé, les violences, malheureusement.
Merci Carole, et merci aussi à toutes et tous nos invités, donc Claire, Alice, Mary et Séraphine. Et merci beaucoup à Kevin qui était à la technique aujourd'hui. Cette émission est rediffusée vendredi à 19h et bien sûr sera disponible en podcast sur le site de Radio Larzac. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission féministe.
Tout à fait, merci Sophia.
Bonne continuation à vous sur les ondes de Radio Larzac.
VTT, zoom, des groupes par milliers. La mère Noël est douce. Nous courons avec les rats du quartier. Son baby girl, viens à mes côtés. T'es pour un, moi j'en ai assez. Demande à un stop, faut me masser. Des additions, t'es pour casser. C'est la red pill ou la blue pill. Vas-y, follow le rapide. Baby, enterre ta vie de jeune fille. C'est la red piece ou la blue pill. Vas-y, follow le rapide. Baby, enterre ta vie de jeune fille. Ton couple traverse des hauts et des bas. Baby, relis-moi ta close, tes détails. Elle me zoue qu'on a les crocs dans le sas. T'es sécure, enlève tes hauts et tes bas. Je l'ai loqué cette mise comme un doyen. Je lui ai dit nous on vise plus que la moyenne. Tu me pousses mais tu veux pas que je m'en aille. Girls trèfle carreau c'est le big time. Elle monte car je suis douce et assoyée. Redescente, elle se transforme en super shine. Je peux craquer bring no tie and die. Si l'entre jambé die, je peux die. Sweet baby girl viens à mes côtés. Débrouille ah ah ouais j'en ai assez. Ton mandarin stop faut me masser. Tes additions, tes pots cassés. C'est la red pill ou la blue pill. Vas-y follow le rapide. Baby enterre ta vie de jeune fille. C'est la red pill ou la blue pill. Vas-y follow le rapide. Baby enterre ta vie de jeune fille.
Tu sais, bouche et monde brûlent davantage que le feu. Plusieurs artificiers dans la lignée, tes yeux au bout du fil. Alors, si tu bégais, j'ai talisman. Fougueux hors piste jusqu'à l'ozone. Fini l'étoile, tu apprendras losange. Tu sais, je connais tout un tas de gens qui pourraient changer tout leur bétail pour un bon parler.